Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission radio s'appelle, Regard d'ailleurs. Regard d'ailleurs, c'est cette envie d'élargir son regard sur le monde à travers des expériences de vie de personnes que je rencontre, soit en voyage, soit ici en France. Mariana, avec moi dans mon salon Mariana. Donc on va prendre le temps de te rencontrer, donc je sais encore pas grand chose de toi, si ce n'est que tu viens du Venezuela, donc tu as rejoint la France il y a plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, tu es prof de yoga de Kundalini, donc dans cette émission radio, on parlera un peu de ton parcours, hein, de ce qui t'a amené à quitter le Venezuela pour venir ici vivre en France, et un petit peu ton histoire personnelle, hein. Je trouve que c'est toujours intéressant de mettre en avant nos histoires de vie, parce que souvent l'histoire d'une personne peut être inspirante pour d'autres personnes. Donc toi Mariana, on va peut-être revenir à cette étape de ta vie, quand tu es au Venezuela, comment tu te retrouves à venir ici en France? Que s'est-il passé? Parle-moi un petit peu de ton enfance, du contexte familial, culturel, social et politique dans lequel tu as grandi au Venezuela.
Ok, moi j'ai vécu au Venezuela jusqu'à mes 24 ans. Je suis à la base ingénieure en matériaux, donc notamment de céramique. On va dire que j'ai eu une vie assez conventionnelle au Venezuela avec une famille de 5. Donc j'ai 2 frères et je vivais avec mes parents juste avant de venir en France. À un moment, après avoir fini mes études comme ingénieur, je commençais à travailler. Je travaillais dans l'industrie. Et à un moment, je me suis dit que j'avais envie de voir autre chose, de découvrir autre chose. Et c'est là que je commençais un petit peu à chercher comment je peux faire autre chose, aller ailleurs pour voir le monde. Et l'opportunité s'est présentée de venir en France. En fait, pour moi, c'était un peu le destin. Et j'avais appliqué d'abord pour aller en Allemagne, avoir une bourse, parce qu'il avait des accords entre l'Allemagne, le Venezuela. Mais c'était assez difficile d'avoir cette bourse. Et un jour, j'ai parlé avec un de mes profs à l'université, qui était français, qui venait de Limoges. Et je lui dis que j'avais envie de voir autre chose. Et il m'a dit, bon, on va chercher un petit peu sur l'université de Limoges, qui sont pas mal de programmes pour faire des master pro. Et il a juste envoyé un mail à l'université de Limoges avec mon CV pour demander si j'avais le bon profil pour commencer un master avec eux. Et ils ont répondu, oui. Le profil correspond parfaitement et on peut te proposer une bourse. Donc, sans demander ni rien, j'ai eu une bourse avec l'Université de Limoges et c'est comme ça que je suis arrivée en France.
Donc ça s'est fait assez simplement finalement, tu avais cette intention d'aller vivre à l'étranger, à l'international, tu avais targeté plutôt l'Allemagne et en fait grâce à un prof que tu as rencontré au Venezuela, tu as pu obtenir cette bourse et une place dans l'université ici.
Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis que c'était le destin, parce que sans le demander, ce cadeau était pour moi. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici et ma vie a continué ici et ça fait déjà 12 ans.
Donc tu es arrivée ici à l'âge de 24 ans, c'est encore relativement jeune quand on part comme ça à l'autre bout du monde à 24 ans. Donc quelle est l'image que tu avais de l'Europe ou de la France avant d'arriver ici? Parce que j'imagine qu'il y a tout un imaginaire aussi qui se met en place quand on vit dans un pays et qu'on va vivre à l'étranger. Voilà, quelle est l'image que tu avais et comment s'est passé ton arrivée ici? Qu'est-ce qui t'a peut-être surprise? Qu'est-ce que tu pourrais partager de cette époque, de tes 24 ans quand tu arrives chez nous en France?
Alors moi j'avais une image de l'Europe comme on dit ça en Amérique du Sud comme si c'est le premier monde. Donc c'était pour moi une image de beaucoup de modernité ou une culture qui était assez différente de la mienne. Mais quand je suis arrivée à Limoges, c'est vrai que ça m'a fait un peu un choc dans le fait que je venais de Caracas, que c'est la capitale du Venezuela, donc il a 5 millions d'habitants. C'est vraiment comme vivre à Paris. Donc il a beaucoup de mouvements, tu as toujours des choses à faire. La nuit, tu as des lumières partout, des bruits partout. Et quand je suis arrivée à Limoges, que c'est une ville assez petite comparée à Caracas, et relativement calme, on va dire que c'est pas la ville la plus dynamique de la France. Pour moi, c'était vraiment où je suis, qu'est-ce que je suis en train de faire ici. Quand je sortais de l'université à 18h et qu'il faisait déjà nuit et qu'il avait personne dans la rue, pour moi, c'était vraiment un changement assez particulier. Je me sentais même parfois en insécurité parce que comme il avait personne dans la rue, je me disais, je suis toute seule là, en train de marcher. Si quelqu'un vient, en fait, c'est penser aussi de l'Amérique du Sud, qu'on doit être parfois toujours en alerte. Et c'est vrai que ça fait pour moi un changement assez radical. Donc, j'ai dû m'habituer à ça. Aussi à des règles qui sont un peu différentes de Venezuela. Une dynamique avec les gens que c'est aussi différente, parce qu'au Venezuela, bon, en Amérique du Sud, on est très proche, c'est très facile de parler avec les gens, de devenir amis. Et là, j'arrive dans un pays où je parlais pas du tout la langue. J'ai juste fait 3 mois de cours avant venir en France. Et je faisais 1 heure par semaine parce que j'ai travaillé tout le temps et je pouvais pas ni réviser, ni pratiquer avec ma prof. Donc, je savais dire bonjour, etc. Et c'est tout. Donc, c'était au début un peu difficile pour moi de se faire comprendre. En plus, je parlais pas non plus très bien anglais. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des personnes merveilleuses qui m'ont accompagnée quand je suis arrivée ici. Et qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée à tout comprendre, à continuer, à avancer, à apprendre le français, à apprendre la culture. Et ça, je remercie énormément à ces personnes qui m'ont accompagnée.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Avant de rester avec nous en France, hein, j'ai envie d'un peu parler de ces années que tu passes là, donc 12 ans que tu es ici, mais je reviens quand même au Venezuela, donc c'est un pays d'Amérique latine. Comment est-ce que tu présentes ton pays quand on te demande d'où tu viens et comment c'est chez toi?
Alors, pour moi, le Venezuela est un pays merveilleux. Il est très, très... C'est pas parce que c'est mon pays, mais c'est une histoire qui est très variée. En fait, c'est un pays qui a beaucoup d'histoires différentes, surtout actuellement. Pour moi, quand j'habitais là-bas, c'était vraiment un pays où tu souris tout le temps, où tu fais la fête pour tout. Ma vie était remplie d'aller à la plage au moins 2 fois par mois, parce que bon, Caracas est séparé par une grande montagne de 3000 mètres, mais t'as derrière la mer. Donc, tu pouvais aller à la montagne et faire des belles randonnées. Mais si t'avais envie, tu pouvais traverser la montagne et juste arriver à la mer, reprendre ta voiture. Et en demi-heure, tu pouvais être à la plage et des très belles plages. Je veux pas dire le contraire. C'est un pays qui a de très belles plages. Après, je pense que quand je suis arrivée en France, en fait, j'ai commencer aussi à découvrir d'une façon différente mon pays. Quand j'étais là-bas, je me rendais peut-être pas forcément compte de tous les contextes politiques, sociaux, ou aussi le contexte avec ce que je pouvais vivre avec ma famille et mes amis. Et quand je suis arrivée en France, je commençais à voir les choses d'une façon différente. Peut-être des choses que j'aimais plus ici. Qu'au Venezuela, par exemple, les règles, j'aime bien, en fait, quand ça fonctionne, que tu as besoin de faire certaines choses administratives et que ça fonctionne, mais parfois, au Venezuela, c'est pas le cas. Mais du coup, c'est vrai que les premières années entre le Venezuela et la France, je faisais beaucoup de comparaisons entre « Oh, Venezuela, c'est comme ça, mais en France, c'est comme ça. » Et du coup, j'étais comme entre les deux. Et après, bon, ça changeait parce que j'ai passé très longtemps, ça fait très longtemps que je suis ici. Et du coup, c'est, je le vois d'une façon différente maintenant.
Quand je pense au Venezuela, ou peut-être de manière plus globale à l'Amérique du Sud, c'est des pays relativement nouveaux, hein, on parle de nouveau monde, contrairement ici à l'ancien monde où tu pensais qu'ici on était très évolué de manière technologique. Donc tu as l'histoire de tous les pays d'Amérique latine où c'est des mix culturels avec différents peuples qui se côtoient. Hein. Donc quand les Espagnols sont arrivés ou les Portugais sont arrivés, il y avait déjà des habitants là-bas. Donc, alors je mélange un peu tout, hein, entre les Incas, entre les différentes cultures. Est-ce que tu peux me parler du Venezuela et des peuples qui vivaient là-bas avant l'arrivée des Espagnols?
Bon, Venezuela, c'est un vrai mélange de tout. Tu peux avoir vraiment toutes les couleurs au Venezuela. Je me rappelle quand je suis arrivée en France, les gens me disaient « Ah oui, mais il ne doit pas avoir beaucoup de blancs et des yeux bleus là-bas. » Non, non. En fait, il en a beaucoup. Et c'est même dans ma famille, des côtés de mon père, on des personnes avec la peau plus mate, des côtés de ma mère, un petit peu plus blanche. Mon arrière-grand-père était espagnol, mais aussi j'ai des origines indigènes. Donc, vous pouvez pas me voir parce que vous écoutez juste ma voix, mais c'est vrai que je suis un mélange de tout ça. Des peuples noirs qui viennent de l'esclavage, en fait, à partir de la colonisation, mais aussi ce mélange avec le peuple autochtone qui c'était des indigènes. Donc, il y a plusieurs communautés indigènes. Je sais pas te dire combien, plus d'une vingtaine, je pense, avec leur propre langue et tout. Et aussi ce côté espagnol qui vient à partir de la colonisation. Donc, pour moi, le Venezuela, je connais pas toute l'Amérique du Sud, mais pour moi, c'est un des pays où il a plus de mélange, où tu peux voir vraiment toutes les couleurs, toutes les différences, mais qu'on vit tous ensemble comme si on était tous le même.
Et donc les langues traditionnelles et indigènes sont encore parlées, ou maintenant c'est vraiment l'espagnol qui est parlé dans l'ensemble du pays, ou t'as toujours des communautés qui ne parlent pas l'espagnol?
Oui, il y a des communautés qui parlent pas espagnol. Par exemple, la première fois que je suis allée en Amazonie, les gens ils parlent pas du tout espagnol. Donc ils parlent leur propre langue, ça peut être Pemón, Guarao, et il y en a d'autres que je connais pas tout. Mais c'est vrai que par exemple, il y a des peuples qui sont, quand ils sont plus dans la nature, dans les jungles, dans les forêts, il y a beaucoup de gens qui parlent pas du tout espagnol. Mais on va dire que la langue officielle du Venezuela, c'est l'espagnol et on communique tous en espagnol.
Est-ce que tu as pris le temps d'aller explorer un peu ton pays et différentes communautés? Est-ce que tu as pu voyager au Venezuela?
Oui, j'ai eu la chance de partir pas mal avec mes parents quand j'étais enfant, adolescent. Découvrir déjà des différentes parties du Venezuela au niveau des paysages. Pour moi, c'est un pays où il y a tout, vraiment tout. Parce qu'on a du désert, on a la mer, on a des montagnes, on a la neige, on a des plages magnifiques, on a la jungle, on a des montagnes qu'il y a uniquement au Venezuela que ça existe, que sont les Tepuy. Et après, en fait, quand je suis arrivée en France, chaque fois que j'allais, ou chaque fois que j'y vais, c'est pas que j'allais, parce que je continue à y aller, au Venezuela, j'essaye de découvrir aussi des nouveaux endroits, d'autres paysages aussi différents. Et comme en étant ici en France, j'avais comme une vision différente du Venezuela, vraiment j'allais, oui, j'y vais comme pour découvrir mon pays, mais aussi avec cette vision d'un touriste qui va découvrir un nouveau lieu. Donc j'ai eu l'opportunité de voyager pas mal au Venezuela, mais il me reste beaucoup de choses à découvrir parce qu'il a trop des endroits magnifiques.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Mariana, tu es en France depuis 12 ans. Tu as quitté le Venezuela à l'âge de 24 ans. Donc tu as fait deux tiers de ta vie là-bas, un tiers de ta vie en France. Quand on vit à l'étranger, donc tu as réussi à t'intégrer, hein, tu as trouvé du boulot ici, tu as fini tes études ici. Mais se pose quand même toujours la question de où choisir de continuer à vivre. Donc toi, tu as choisi de vivre en France. Pourquoi ? Pourquoi rester vivre ici et pas retourner au Venezuela ?
Pour moi, ça s'est fait naturellement, vraiment. Mon idée au début, c'était d'arriver, de venir en France et faire juste un an d'études. En fait, faire mon master professionnel à l'université de Limoges, où je peux faire un stage aussi. Un stage qui m'a mené à Saint-Étienne, à l'école des mines de Saint-Étienne. Et du coup, au bout de 3-4 mois, je rencontrais un Français. Et c'est ça aussi qui a fait un peu basculer de me dire j'ai envie de rester en France pour être avec lui. Donc c'est souvent l'amour qui nous fait rester au parti à un endroit. Et pour moi, c'était le cas. Et du coup, après ce master, j'ai continué, à part que ça me plaisait vraiment de vivre en France et que je voulais continuer à découvrir ce pays, c'était aussi pour rester avec lui. Donc, j'enchaînais mon master avec un doctorat que j'ai fait à l'école des mines. Et après, tout ça, tout s'enchaînait, en fait, après mon doctorat et la vie a continué. Et ça fait que je me sens maintenant vraiment chez moi en France.
Mais j'ai aussi vu que tu t'intéressais au yoga, notamment au Kundalini yoga. Donc on va revenir un peu sur cette expérience de ta vie. Donc tu habites en France, tu rencontres ce Français, tu fais le choix de te marier, de rester vivre ici. Tu parles d'un master que tu as fait aux mines à Saint-Étienne. Et comment est-ce qu'on devient de ingénieur à professeur de yoga? Comment se fait la transition? Parce qu'on est quand même dans un pays où les ingénieurs ont très bonne presse. Et voilà, pourquoi, enfin comment est-ce qu'on passe d'ingénieur à prof de yoga?
Alors, l'histoire est un peu longue de tous ces chemins. On a la même image d'ingénieur au Venezuela. Et je pense qu'en partie, je voulais être ingénieur pour ça, pour avoir un travail avec du prestige et avoir de l'argent. Mais j'étais toujours intéressée par faire d'autres choses complètement différente dans ma vie. Par exemple, quand j'étais au Venezuela, j'ai beaucoup dansé. J'ai dansé les danses traditionnelles du Venezuela, ce qui m'a beaucoup connecté avec les racines de mon pays. Donc j'avais toujours, j'ai même presque quitté l'université pour devenir danseuse professionnelle. Et donc ça a été toujours présente, cette partie artistique, et que vraiment c'était spirituel, mais que je voyais pas forcément à l'époque que c'était quelque chose de spirituel.
Qu'est-ce que c'est que spirituel pour toi? Tu peux définir ce mot?
Oui, alors pour moi, la spiritualité, c'est tout ce qui me permet de me connecter avec moi, avec mon âme, avec ce qui je suis. Donc ça peut être n'importe quelle pratique ou activité, si on peut dire. Pour moi, dans mon cas, ça a été le Kundalini Yoga qui m'a permis de connecter avec cette spiritualité. Mais c'est aussi d'être dans la nature qui me permet de connecter avec ce qui je suis, vraiment. Et quand je dis ce qui je suis, c'est pas toutes les constructions qu'on se fait dans sa tête, qu'on doit être ça, ça et ça, ou qu'on s'est... à cause de tout ce que la société nous dit d'être aussi. Sinon, c'est vraiment laisser tout ça de côté pour venir connecter avec son âme et se sentir bien avec ce qui on est véritablement.
Mais donc d'ingénieur, c'est vraiment cette notion de sens finalement. Tu disais, c'était pour le prestige que tu t'es lancé dans ces études-là. Et se pose la question à un moment donné, mais est-ce que je suis réellement à ma place? C'est ça, hein, cette notion de sens qu'on donne à nos existences.
Complètement. Je pense que c'est une des questions qui revient le plus souvent dans ma vie. Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je me sens vraiment bien dans l'endroit où je suis ou avec ce que je suis en train de faire à ce moment? Et c'est pour ça qu'à la fin de mon doctorat, je me suis rendu compte que même si la science, c'était une passion, vraiment. Je sentais beaucoup de passion pour faire ça. Et j'étais pas mauvaise, j'étais bonne dans ce que je faisais. Je me suis rendu compte que je me réveillais pas le matin en me disant, oh oui, j'ai très envie d'aller travailler et de continuer à faire la recherche. Parce que j'ai tout fait dans ce monde. J'enseignais un peu à l'université, j'ai fait la recherche, j'ai travaillé dans l'industrie, dans la production. Et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Et je suis une personne qui je pense qui n'a pas peur de changer. J'aime beaucoup le changement. Et je me suis dit qu'à la fin de mon doctorat, que c'était le moment d'échanger. Et le changement, c'est fait avec un voyage. Et c'est ça qui a beaucoup changé ma vie. Avec mon partenaire de l'époque, on a décidé de partir en voyage. Un an en voyage, de tout quitter notre appartement, quitter nos travail, et se lancer dans l'inconnu. Et c'est ce voyage qui m'a transformée. C'est la première fois que je me sentais vraiment moi-même et en liberté entière. Et après ce voyage, parce que bon, l'histoire continue, on est arrivé en France et ce voyage m'a tellement changé que quand je suis rentrée, je suis comme rentrée dans une espèce de dépression. Comme je n'avais plus ce voyage ou ce sentiment d'être en liberté, quand je suis arrivée en France, je savais pas quoi faire de ma vie. J'étais sûre que je voulais plus être ingénieure, que je voulais faire des choses différentes dans ma vie, mais je savais pas quoi. C'était déjà dans ma tête que je voulais être prof de yoga parce que ça fait presque 15 ans que je pratique le yoga. Et pendant le voyage, j'amenais mon tapis de yoga partout. Je faisais sur les plages, les hôtels, etc. où je pouvais pour continuer ma pratique. J'avais pas encore découvert le Kundalini, mais je faisais d'autres types de yoga. Et quand je suis arrivée ici, je me suis dit, qu'est-ce que t'aimes faire vraiment? Et à ce moment-là, c'était voyager. Donc, j'ai trouvé un travail dans une agence de voyage pour vendre des voyages et parler tous les jours des voyages. Et j'ai eu la chance de trouver un travail assez rapidement parce que c'était la seule offre qu'il y avait à Strasbourg où je pouvais parler des pays que je connaissais par cœur. Et du coup, pour moi, c'était le bonheur parce que je vendais des voyages sur mesure, donc je devais parler avec les gens, qu'est-ce que vous aimeriez faire, etc. Et du coup, parler de mon expérience dans ces pays.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
À quel moment tu rencontres le Kundalini Yoga? Donc tu disais le yoga t'accompagnait déjà, t'avais avec toi ton tapis de yoga. Quand on parle de yoga, effectivement, il y a différents types de yoga. Le plus connu, c'est le Hatha Yoga, basé sur des postures. Mais il y a plein de formes de yoga différents. Et donc parmi ces formes-là, il y en a un qu'on appelle le Kundalini Yoga. Donc comment est-ce que tu l'as rencontré et qu'est-ce que c'est?
Alors moi, j'ai rencontré le Kundalini en 2018, si je me trompe pas. Et c'était dans cette période où je venais juste de rentrer de voyage. Donc j'étais dans cette période où j'avais pas encore trouvé de travail et que je me sentais vraiment que j'étais dans une dépression assez importante de pas savoir qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Je me sentais pas bien du tout. Et pour moi, la solution, ça a été de m'inscrire dans un club de yoga et y aller tous les jours, parfois même deux fois par jour. Donc, dans ce club de yoga, il avait toutes sortes de yoga, on pouvait tout tester, ou la plupart des yogas. Donc, avant, j'étais plus dans le classique, je faisais beaucoup de vinyasa, beaucoup de ashtanga, j'aimais bien le yoga où c'est challenge, ça te confronte, tu dois faire des postures compliquées, tu dois un peu souffrir et tout ça. Donc, j'étais vraiment dans ce type de yoga. Et j'avais tout testé. Et je me rappelle que j'avais fait une fois un cours de Kundalini Yoga en ligne dans une plateforme où je faisais pas mal de cours. Et j'avais fait un cours un jour en ligne. Et pour moi, ça a été horrible. C'était très, très difficile. Et je disais, mais c'est des postures qui sont assez simples. Comment ça peut être si physique? En plus, la personne qui enseignait, le professeur, il avait un turban, il était tout habillé en blanc. À la fin, il avait pris sa guitare et il chantait des mantras. Et je disais, mais c'est quoi ça? C'est comme une espèce de secte. Et je comprends pas qu'est-ce qui se passe ici. Et je me rappelle que j'avais pas forcément adhéré quand je fais ces cours parce que j'avais quand même un peu souffert et je comprenais pas tout ce qui s'est passé en moi parce que ça révélait des choses en moi aussi. Et un jour, je me suis dit, dans ce club de yoga, bon, allez, je vais tester un cours de Kundalini Yoga parce que c'est le seul que j'ai pas encore testé et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Je me rappelle, je pense jamais oublier ce jour-là, quand la prof a commencé à chanter. En fait, dans le Kundalini Yoga, on chante deux mantras pour ouvrir notre espace de pratique et se connecter avec les enseignements. Quand elle a chanté ces deux mantras, il y a quelque chose qui a changé en moi, directement. Et je me suis dit, ok, c'est là. C'est là où je dois être, c'est là où je dois continuer. Et à partir de ça, toute ma vie a changé.
Donc on revient au Kundalini. Donc Kundalini, si je ne me trompe pas, la Kundalini, c'est une sorte de colonne énergétique qu'on a dans notre corps. Donc là, quand on parle de yoga, donc on parle d'une philosophie qui vient des Védas en Inde essentiellement, donc différents styles, différents types de yoga. Tu parlais de l'Ashtanga, du Vinyasa, le Hatha Yoga, le Kundalini Yoga. Donc peut-être rapidement, est-ce que tu peux m'exprimer selon toi déjà ce que c'est que le yoga, comment tu le définirais, peut-être sur le côté un peu culturel et historique, et après nous présenter le Kundalini Yoga.
Okay, oui. Alors moi, je ne vais pas parler de beaucoup de théories de yoga, parce que pour moi, le yoga, c'est vraiment une expérience. Même si je fais beaucoup des études, ce qui me parle le plus, c'est l'expérience que j'ai eue avec le yoga. Donc, on va dire que dans le yoga un petit peu plus classique, plus connu, moi, j'ai pas beaucoup de connaissances. Donc, moi, je vais pas inventer des choses que je connais pas. Mais pour moi, le yoga, c'est une pratique, c'est une philosophie de vie, c'est plus qu'une pratique. Pour moi, ça c'est devenu une philosophie de vie et partie de mon chemin et de ma vie. C'est ce qui me permet de faire le lien entre mon corps et mon esprit. Et de rester consciente entre les deux, de ce qui se passe à l'intérieur de moi et ce qui se passe aussi dans mon corps physique. C'est quelque chose que j'avais pas forcément avant, de cette conscience de corps, de ce que je ressens, de comment je bouge, de comment je mange, etc. Et c'est grâce au yoga que je peux me découvrir dans tous les sens, pas uniquement intérieurement, mais aussi physiquement.
Alors, ce que j'aime bien dans ton parcours et en t'écoutant, donc tu fais un doctorat d'ingénierie, et là tu me parles d'univers, de messages du cœur, de conscience. Donc c'est un peu un grand écart entre finalement un univers très structuré et un vocabulaire beaucoup plus New Age qu'on entend aujourd'hui. C'est assez intéressant.
Oui. C'est assez intéressant, mais je crois toujours à la science. En fait, tout va ensemble, en fait. Je parle de mon expérience, de ce que je peux ressentir. Et du coup, les deux continuent à me parler, je pourrais parler de science aussi. Et en même temps, parler de spiritualité et de tous ces termes, des âmes, univers, etc.
Oui, en fait, peut-être pour avancer, pour conclure cette émission, ce que j'entends, ce qui est important, c'est l'équilibre, trouver un équilibre dans nos vies, finalement, c'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour trouver cet équilibre? Alors toi, tu parlais, j'ai bien compris, le mouvement fait partie de toi. Tu disais déjà enfant, tu étais danseuse, tu as failli arrêter tes études pour devenir danseuse professionnelle. Finalement, le yoga, c'est des postures, c'est aussi du mouvement. Tu as voyagé, tu as fait un tour du monde pendant un an, c'est aussi du mouvement. Voilà, l'équilibre, donc toi, j'ai l'impression que c'est à travers le mouvement que tu le retrouves. Mais comment fait-on, ou selon toi, les clés pour arriver à trouver cet équilibre intérieur qu'on recherche tous. On va parler d'alignement.
Alors, je n'ai pas en clé comme ça quelque chose à faire absolument. Moi, je trouve qu'il faut suivre, et c'est ça que je fais toute ma vie, c'est suivre son intuition, suivre son cœur. Et vraiment, quand on sent qu'on doit faire quelque chose, je pense qu'il faut le faire. Il faut tout trouver pour pouvoir le faire. Si on sent que notre cœur, notre âme, ça vivre avec quelque chose, il faut y aller. Il faut continuer. Et pour moi, c'était pas forcément évident. Moi, je sens vraiment maintenant que je suis à ma place, mais peut-être je vais changer à un moment. Je veux pas dire que je vais être prof de yoga toute ma vie, parce que peut-être je vais encore changer, comme j'ai déjà changé plusieurs fois. Mais c'est en essayant et en vivant l'expérience, en faisant des expériences. Je voulais être ingénieur, je le fais. Je voulais faire un doctorat, je le fais. Ça me convenait pas, je changeais. Je travaillais dans le voyage, c'était très bien au début. Ça me convenait plus après, j'ai ressenti l'appel de yoga. Ça a tellement changé ma vie que je me suis dit, ok, il faut enseigner, il faut aussi pouvoir partager toute cette expérience et toutes ces connaissances avec d'autres gens pour que ça puisse aussi aider à changer un peu la vie des autres. Et je le fais. Et du coup, je suis sur ce chemin qui peut-être changera plus tard. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer plus tard. Je suis juste maintenant en train de savourer, de me sentir bien connectée avec ce que j'enseigne, avec ce que je donne, ce que je suis en train de vivre maintenant.
Mariana, merci à toi.
Merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.